dernier truc que j'ai fait, en fait, c'est des adaptations de jeux d'aventure. C'est ce que je te disais, là, j'ai fait des adaptations sur Amstrad, de jeux Froggy, Le Crime du Parking, La Java du Privé, et puis Le Mur de Berlin va sauter, quoi.
D'accord.
Et j'avais fait aussi un petit jeu, j'avais participé à un concours qui consistait à créer un jeu pour, en 16 kilos pour tenir sur une ROM, quoi, pour pouvoir... parce que l'Amstrad, typiquement, le format, le support, c'est vraiment cassette, disquette. Mais depuis quelques temps, il y a des gars qui... Il y a pas mal de mouvements aussi sur tout ce qui est électronique. Et il y a des cartes qui permettent, bah, typiquement, de mettre une petite ROM. Donc le jeu, tu démarres direct en ROM sans charger, quoi.
Ouais, c'est pratique, ça.
Voilà. Et moi, j'avais fait un clone de Sokoban, donc le jeu où tu as un petit bonhomme qui pousse des caisses. Je l'avais fait donc en full scan, donc sur toute la surface de l'écran. Il s'appelle Overcommand, quoi.
D'accord.
Avec des musiques que j'avais bricolées. Là, pour le coup, j'avais fait appel à un graphiste que je connais depuis très longtemps, qui s'appelle Super Sly. Donc, on avait fait un petit truc sympa. Bon, on est arrivé dernier, hein, pourtant le jeu est bien. Mais...
Non, mais le plus important, c'est que tu as vraiment ton projet.
Ah bah, l'organisateur était content parce que, alors, au départ, c'est un jeu que je voulais faire, non pas sur Amstrad, mais sur VG5000, donc le premier ordinateur que j'ai eu. Qui, on va dire, est quand même un gros laissé pour compte au niveau développement. Il n'y a personne qui travaille dessus.
Alors qu'il y a, plein de choses à faire.
Ah, oui, vu que personne ne fait rien, il y a plein de choses à faire. Mais, et donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire un saut comment là-dessus. Et comme sur VG5000, il n'y a pas vraiment d'environnement de développement, il n'y a rien, quoi. Il y a un émulateur qui existe, qui est bien, mais ce n'est pas avec ça que tu vas faire du développement PC sur VG5000. Je m'étais dit, comme le VG5000, c'est le même processeur que l'Amstrad, j'ai déjà fait un proto du jeu sur Amstrad avec des graphes de base, des machins, et puis voilà. Et puis le concours arrivé, là je me suis dit, tiens, autant attaquer une version Amstrad, et du coup j'ai pas fait le jeu sur VG5000.
D'accord, mais tu pourras y revenir.
Ah oui, peut-être, ouais, mais... voilà, bon bref, donc on s'occupe un petit peu. Et puis depuis pas mal de temps, je fais aussi surtout des musiques.
D'accord.
Pour des démos ou des jeux, c'est comme ça que là j'ai rencontré Eric pour Atanor. Je lui ai fait principalement les musiques du jeu, quoi.
La musique sur l'Amstrad ?
Oui.
D'accord.
Alors, je le fais sur Amstrad. Je pense qu'il y en a qui vont hurler. Les dernières que j'ai faites, je ne les ai pas faites sur un vrai CPC. Je l'ai fait sur un émulateur PC qui s'appelle Winamp.
D'accord.
Qui n'est pas très bon d'ailleurs pour restituer le son. Il y a des problèmes au niveau des réglages de volume. Mais bon, je fais ça comme ça parce que c'est plus simple, entre guillemets. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que tu peux avoir 25 sauvegardes de tes essais. Alors sur ces PC, bon, les disquettes, c'est bien, mais... ça peut surtout tomber un peu en rade parce qu'elles ont quand même toutes 30 ans. Hein, donc, c'est aussi un peu par feignantise, on va dire ça comme ça. Et donc, je fais ça sous Winamp avec un logiciel, par contre, qui est un logiciel qui fonctionne sur ces PC qui s'appelle Starkos. Et une fois que j'ai réussi à faire un truc potable, je vais quand même après retransférer la musique sur un vrai CPC pour écouter. Parce qu'en général, effectivement, il y a vraiment des différences au niveau des volumes. Et donc, du coup, je finis la musique sur CPC pour adapter ces volumes-là. Après, c'est un petit peu compliqué parce que même au sein de la famille CPC, typiquement le CPC Plus, il avait une grosse différence aussi par rapport au CPC de base. Le CPC de base, il a un petit haut-parleur interne, mais dans la coque de la machine. Le CPC Plus, il y a un ou deux haut-parleurs, je crois qu'il y en a qu'un d'ailleurs, mais qui est dans l'écran. Donc il y a un haut-parleur qui est beaucoup plus gros, il y en a deux d'ailleurs. Et en fait, tu as vraiment de la stéréo. Et au final, ça sort pas de la même manière au niveau son. Donc à chaque fois, quand tu fais une musique, si tu veux faire les choses bien, il faut qu'elle soit à peu près écoutable à la fois sur un CPC de base, le CPC Plus, et éventuellement sur un émulateur quand il n'émule pas trop mal le son.
Donc tu vas tout faire à chaque fois, plusieurs tests.
Voilà, et en gros, c'est toujours d'histoire de réglage de volume. Et en fait, c'est juste, tiens, tel instrument, j'augmente ou je diminue le volume de 1. Ça va être imperceptible sur l'émulateur. Par contre, ça va faire une vraie différence sur la machine, quoi. Et, ou inversement. Hein, donc, c'est le truc un peu chiant, on va dire, de la composition musicale sur Amstrad. C'est que même quand tu as fait une musique, tu es content. Après, il faut taper quand même ces adaptations, on va dire, sur les différentes sources de machines. Enfin, les différents modèles de machines. Et pour moi, l'émulateur, c'est aussi un modèle de machine, finalement.
Oui. Mais après, ça
parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se servent, enfin qui font du CPC, mais sans avoir un CPC.
Ah oui. Ouais. Ils ont entre guillemets ce qu'il faut, mais.
Voilà, et ils sortent pas, ou bon, après il est peut-être en panne, même si c'est quand même une machine qui est vraiment costaud. Donc utiliser un CPC 30 ans après, c'est tout à fait faisable. Hein. C'est pas un truc qui va tomber en rade. Le plus fragile, en fait, c'est des pièces d'usure, style des courroies, du lecteur de disquettes, de cassettes. L'écran, bon, à bout de 30 ans, il commence aussi à avoir un petit peu de mal, mais globalement, c'est quand même vraiment très costaud.
Ouais, c'est de la bonne machine.
Et voilà. Et toutes les machines que je récupère, parce que tous les ans, à l'AC, il y a toujours un gars qui m'amène un machin à dépanner ou bidule. Globalement, j'en ai jamais vu une qui était complètement détruite, quoi.
D'accord, ouais, donc c'est vraiment...
C'est toujours réparable, quoi.
D'accord. Mais ils étaient faits, donc... Est-ce que, bon, à l'époque des années 80, ils étaient peut-être... Faits... En Angleterre, c'était peut-être pas fait à l'étranger.
Alors, comme ils avaient l'habitude de faire de l'électronique, en gros, ils étaient produits en Corée. D'ailleurs, il y a marqué « Made in Korea » partout.
D'accord, alors, c'était coréen, d'accord.
C'était fabriqué en Corée. Ouais, les écrans, les machines, tout. Hein, en Angleterre, ils faisaient rien. Hein.
D'accord.
C'est aussi pour ça qu'ils avaient peut-être des coûts compétitifs.
Oui, la Corée, à cette époque-là, était peut-être pas trop... Ouais. D'accord.
Et alors, il y a une exception, c'est que les Amstrad, ils ont été vendus au début sur plusieurs marques. Et notamment en Allemagne, tu n'avais pas des Amstrad, mais tu avais des Schneider, qui étaient un petit peu différents en fait. Ils avaient des connecteurs qui n'étaient pas des connecteurs plats, mais des vrais. Alors, je ne sais plus si c'est des Suntronic ou des Cinch, des trucs comme ça, enfin, des vrais connecteurs machin. Quand tu ouvrais un Schneider, déjà ça s'appelait Schneider, à l'extérieur, ce n'était pas Amstrad. Hein. Quand tu ouvrais un Schneider, paf, tu avais un super blindage à l'intérieur, alors que l'autre, il n'y a rien. Et eux, je crois qu'ils étaient vraiment faits en Allemagne. Alors peut-être que la partie carte mère, elle venait de Corée, mais après, ils avaient un assemblage en Allemagne. Quoi. Et il y a peut-être eu une exception un peu espagnole aussi, parce qu'à un moment, il y a... Alors là, je pense que c'était quand même pas fabriqué en Espagne, j'en suis sûr, mais ils étaient quand même un peu bricolés. Le 464, en fait, ils se vendaient relativement bien en Espagne aussi, et il y a une loi qui est sortie dans 1985 ou 86, qui imposait aux constructeurs d'avoir un clavier espagnol si tu avais une machine qui faisait moins de 64 kg, je crois.
Ah oui, d'accord.
Et donc, évidemment, l'Amstrad, clavier QWERTY typique, c'est pas trop espagnol.
Non, c'est vrai.
Il n'y a pas les accents, les tildés. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté 8 kg de mémoire qui sert strictement à rien, qui est limite même pas accessible. Ils ont appelé le CPC 472 et là, bingo, ils n'avaient plus besoin d'adapter le clavier. Quoi.
D'accord.
Et ils ont fini par faire un 464 avec un clavier espagnol, comme en France, à partir d'un 87, je crois, ou 88, ils ont sorti des Amstrad avec clavier français.
D'accord.
Donc c'était vraiment clavier AZERTY au lieu de QWERTY avec des accents, ce qui a posé quelques petits soucis de compatibilité. Pas tellement dans les jeux, mais enfin bon, il y a des petits trucs comme ça à droite et à gauche, quoi. Mais, donc c'est une machine, globalement, le hardware, il a très très peu évolué, quoi.
D'accord.
Le design des cartes mères a bougé parce qu'ils les ont optimisées au fur et à mesure, ça devient de plus en plus petit, mais après, les spécifications techniques, elles n'ont pas changé, quoi.
D'accord.
Et pour en finir là-dessus, parce que bah, il va bien falloir qu'on arrête un moment, quand il est sorti, il y avait quand même quelques économies de bout de chandelle qui avaient été faites sur la machine. Typiquement, il n'y avait qu'un seul port joystick, il n'y en a toujours eu qu'un sur les CPC normaux, d'ailleurs. Après ils en ont mis deux sur les pouces. Et puis le truc qui faisait râler tout le monde, qui était effectivement un peu bidon, le port imprimante, en fait, contrairement à quasiment tous les autres micros qui sont sur 8 bits, il était sur 7. Donc ils vendaient des imprimantes Amstrad à 7 bits, il y avait la DMP 2000 je crois, puis après la 2160. Et si tu voulais avoir 8 bits, bah soit il fallait acheter une extension un peu particulière, ou alors il fallait programmer le fait d'envoyer le 8ème bit après les 7 premiers bits. Donc ça, c'était un peu
ouais, c'était pas très au niveau commercial, là, ils ont un peu... C'était pas super.
Bah, c'était un peu pourri, quoi.
Oui, voilà. Dire.
Alors qu'en fait, le 8ème bit, quand ils ont fait le CPC+, il y était, donc techniquement... Oui, alors peut-être que ça leur permettait d'utiliser un composant moins cher, machin... Dans le même état d'esprit, il y a la programmation de la puce sonore. Hein. C'est une puce classique à Y, hein, 1912 ou 13, je ne sais plus d'ailleurs, 910 peut-être, 12. Elle n'est pas forcément simple sur Amstrad. Alors, quand on faisait que de l'Amstrad, on disait, ok, bon, c'est un peu chiant, mais après, quand j'ai bricolé un petit peu sur MSX, la puce sonore, on fait une commande, on accède directement au registre. Ah oui, sur Amstrad, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on passe d'abord par une autre puce qu'il faut sélectionner, et en termes de temps de traitement de la musique, du coup, ça rallonge quand même pas mal le process. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des économies pour limiter le nombre de ports en même temps, mais bon. Et ça, par contre, ils ne l'ont pas changé après sur le plus pour des raisons de compatibilité, quoi. Mais,
d'accord.
Voilà. Pour moi, c'est les seuls vrais défauts. Et encore, bon, l'utilisateur, ils sont fous, hein, mais...
Oui, parce que comme tu l'as dit, à part quelque chose que tu as vu, là, quand on te ramène des Amstrad, y a pas, la machine n'a pas gros...
Non.
Il n'y a pas grand chose qui manque. Donc,
Et par contre, il y a d'autres aspects au niveau technique qui sont excellents, c'est la façon dont la mémoire est gérée sur Amstrad. Ça permet, alors déjà, la mémoire supplémentaire est accessible très facilement, même en basique. Le concept, il est simple. Contrairement à d'autres micros, là, je parlais du MSX tout à l'heure, pour moi, c'est une catastrophe complète, la façon dont la mémoire est gérée. Enfin, le mec a pondu ça, enfin bref, c'est une cata. Hein. Le CPC, c'est simple, c'est compréhensible. L'autre, il faut BA plus 12 pour savoir comment mapper une page d'écran. Hein. Et en plus, tu en as besoin, parce que dès que tu commences à vouloir utiliser justement les fameux 64 kg de mémoire, sur un MSX, tu n'as pas accès directement. Quoi. Sur un CPC, les 64, bah, ils sont déjà mappés, c'est pas un problème. Si tu veux faire du 128 kg, tu as juste un système de pages, tu sélectionnes la page numéro
3, ouais, terminé. C'est plus voilà. facile. Ouais.
Et à côté de ça, tu as des modes un peu bizarres qui permettent de faire des choses assez intéressantes sur le CPC que tu ne peux pas faire avec d'autres machines. Quoi. Tu peux carrément faire un mode où tu as une première machine, ta première page de 64 kg de mémoire, donc standard, tu peux commuter la mémoire supplémentaire pour refaire une deuxième machine.
Ah oui.
Et alors bon, après, on va se dire, ouais, ok, ça sert à rien, mais il y a des cas où des fois c'est utile. Ça servait par exemple pour faire du déplombage, mais bon, enfin, ça c'est autre chose.
Oui, il y a toujours des moyens comme ça qui.
Les dernières démos Amstrad qui sont sorties, il y en a un certain nombre qui utilisent justement ces fonctionnalités-là. Quoi. Où tu pouvais, une fonctionnalité qui est très intéressante aussi, c'est que tu pouvais faire de l'overscan, donc avoir une page écran qui occupe l'intégralité de la surface de ton moniteur, alors que normalement il y a des bordures. Ça, tu peux le faire très très facilement. Quoi.
D'accord. Alors que sur les autres, c'est pas...
D'autres machines, ouais. Soit c'est carrément pas possible, ou c'est hyper compliqué.
D'accord.
Alors que sur le CPC, c'est un truc... Alors, ça n'a pas forcément été beaucoup exploité du temps de la carrière commerciale de la machine, parce que quand tu as 64 kg de mémoire, et puis tu en bouffes 32 ou 24 pour l'écran...
Juste pour l'écran, ouais, c'est vrai.
C'était... Une des forces et des faiblesses de la machine, c'est que la mémoire vidéo, par rapport à la quantité de mémoire et la puissance de l'ordinateur, était assez importante. Un écran CPC, une page, c'est 16 kg de mémoire.
D'accord.
Et c'est une des machines, on va dire 8 bits, qui a le plus de mémoire qui est consacrée à la mémoire vidéo. Quoi.
D'accord.
La plupart, c'est plutôt 8, 4. Sur Amstrad, il n'y a pas de mode caractère, par exemple. Tu prends des Spectrum, des MSX, des trucs, il y a toujours des modes... beaucoup moins gourmand, on va dire, en espace mémoire que le CPC. Quoi.
D'accord.
Donc voilà, c'est, après on fait avec, hein, mais c'est une machine qui a ses forces et ses faiblesses, mais il y a vraiment, globalement, c'est plutôt agréable à programmer. Les gens qui la découvrent en général sont agréablement surpris.
Et, oui, c'est facile d'être.
Et tu peux quand même faire des trucs. Il y a une démo qui est sortie en 2017 qui s'appelle Logan's Run. Je ne sais pas si tu l'as vu, elle est sortie à une convention qui est quand même connue, qui s'appelle la Révision, c'est en Allemagne. Quand c'est passé, les mecs, il n'y a personne qui comprenait comment ça marchait. Quoi.